Merci, Monsieur Vida. J'ai deux trois remarques, si vous voulez bien. D'abord, une toute première question qui est liée à ce que vous avez dit tout à la fin. Est-ce que vous envisagez aussi de développer une pédagogie de la laïcité dans le cadre scolaire par rapport aux sciences de la vie et de la terre? Bon, une petite question. Ensuite, une chose qui m'a frappé, c'est que vous avez dit que, vous l'avez dit sous cette forme, ce qui pose problème à la laïcité aujourd'hui en France, c'est l'islam. Ça m'a un petit peu interpellé parce que pour moi et pour les amis dont Guillaume qui travaillons là-dessus depuis quelque temps, hic et nunc, ce qui pose problème à la laïcité française, c'est d'abord la religion catholique aujourd'hui. Hein, depuis le discours du Latran jusqu'à la loi Carle, en passant par les conférences départementales sur la liberté religieuse. Et la reconnaissance par la République des diplômes d'enseignement supérieur délivrés par le Saint-Siège, y compris canoniques, il nous semble que là, il y a autant d'accrocs à la laïcité que... Alors bien entendu, on n'est pas complètement naïf, on voit bien, puisqu'on est tous imbibés de cette idée qu'en islam, le temporel et le spirituel... vous nous avez donné une référence, là, Ali Abderrazik, qui essaye de démontrer le contraire, alors on va lire. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que nous avions aussi cette idée-là, et que par conséquent, on ne sous-estime pas la difficulté pour un musulman honnête de trouver sa place dans un pays qui essaye de séparer concrètement le religieux et le... Mais institutionnellement, malgré tout, j'en reviens à ce que je disais, notre sentiment, c'est que dans la période récente, ceux qui attaquent d'emblée, enfin de front, la laïcité, c'est plutôt la religion catholique que l'islam. Et puis un troisième point, c'est que j'ai pas compris vraiment, sur le fond, ce que vous avez développé quand vous avez dit que il fallait penser à nouveau, du fait de son retour, à la fonction exercée par le religieux. J'ai pas compris ça, du point de vue de la laïcité, parce que pour nous, la laïcité, c'est l'autonomie de l'État par rapport au religieux. Qu'il y ait un retour du religieux, c'est clair. Bon, mais que le religieux s'organise, qu'il fasse ce qu'il veut dans son coin, c'est son problème, en quelque sorte, n'est-ce pas? La ligne de conduite à conserver serait y compris dans ce nouveau contexte que vous décrivez, avec lequel on n'a pas de problème, si je peux dire, ce serait évidemment de conserver son autonomie, quelles que soient par ailleurs les manifestations de ce religieux, qu'il soit moribond ou qu'il soit au contraire renaissant. Voilà. Merci.
Alors, je vais aller vite sur la troisième question. C'est pas que je refuse de vous répondre, mais c'est vraiment l'objet de mon livre le plus récent. Donc, je ne veux pas répondre en quelques secondes après avoir passé 300 pages dessus. Non, c'est pour ça qu'on écrit des livres. Hein, c'est-à-dire que ce sont des questions qui sont très difficiles. J'ai tout à fait conscience d'être allé beaucoup trop vite. Hein, c'est-à-dire quand je peux commencer à parler de fonctions existentielles que le religieux avait pu remplir, etc., je conçois très bien que dans une intervention de quelques dizaines de minutes, le grand écart soit difficile à comprendre avec la question de la laïcité. Mais je pense qu'il y a un rapport et je vous invite donc à aller voir de ce côté-là. Vraiment, voilà. C'est pas une façon de botter en touche, mais vraiment, ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles. Hein, c'est ce sur quoi j'ai essayé d'insister au début quand je vous disais que je déplore beaucoup que sur toutes ces questions, nous ayons souvent une petite lorgnette, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que j'accorde toute sa place à la question de la laïcité, etc. Sinon, je n'aurais pas commencé à travailler dessus. Je me suis engagé depuis quelques années au sein du HCI, au sein de la commission laïcité, etc. Mais si vous voulez, pour moi, de mon point de vue, hein, par rapport à mon propre travail, c'est une porte d'entrée vers des problèmes qui sont incommensurablement plus vastes. Et celui que je vois derrière, c'est justement la question du statut du religieux. Voilà. Question du statut du religieux, absolument, simplement. Concernant votre deuxième question, je remonte. Islam-catholicisme. Oui, vous avez raison. Vous pouvez considérer que le catholicisme est ce qui pose le plus problème, etc. À ceci près que ce soit la religion catholique ou que ce soit le protestantisme, et d'ailleurs le protestantisme en est lui-même la manifestation, hein, nous avons affaire à une religion chrétienne, donc de façon générale, qui est habitué à composer avec les idées de laïcité, de sécularisation depuis des siècles. Des siècles et des siècles. Hein, et qui a été pénétré à des degrés divers, je parlais du protestantisme, par l'idée qu'il fallait effectuer un certain nombre de désacralisation et de séparation. Hein. Alors que la différence, justement, avec l'islam, c'est que nous avons une civilisation qui, je redis ce que je disais tout à l'heure, à certains égards, a une expérience de la séparation du politique et du religieux. C'est pas un mythe. Makram Abbès raconte dans son livre que si on analyse l'art de gouverner des sultans, des califes, enfin à toutes les échelles de la souveraineté politique, que ce soit le potentat local ou l'empereur, le chef d'empire, hein, par exemple le calife ottoman, eh bien leur façon de gouverner était beaucoup plus inspirée par l'art de la guerre de Sun Tzu, était beaucoup plus inspirée par Machiavel que par une influence religieuse, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup moins influencé par, ou non, commandé plus qu'influencé, beaucoup moins commandé par le souci d'une conformité avec une norme religieuse que par des soucis, des impératifs d'efficacité. Hein ? D'efficacité, dans l'art de conserver le pouvoir. Voilà. Bon, ça, c'est pas du tout... Mais, malgré tout, il y a quelque chose dans la civilisation islamique qui n'a toujours pas été pensé entre le politique et le religieux, c'est-à-dire une question de juridiction, c'est-à-dire que même si de fait la norme religieuse n'est pas toujours utilisée, mobilisée, etc., eh bien de droit et à l'intérieur d'une vision du monde, elle garde sa position de suprématie. Il y a très très peu de penseurs musulmans qui sont attaqués à cette question. Il y en a un que j'affectionne particulièrement parce que j'ai travaillé sur lui, c'est Mohamed Iqbal, que madame a cité tout à l'heure, Mohamed Iqbal qui est absolument inconnu en France. Hein, il n'y a plus personne qui travaille sur lui aujourd'hui, on est deux à écrire des choses en français aujourd'hui sur lui. Et justement, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est un penseur, je vais faire rapide, hein, c'est quelqu'un qui est né à Lahore en 1873, donc fin du 19e siècle. Mohamed Iqbal. Iqbal s'écrit I-Q-B-A-L. Voilà, et Mohamed. Bon. Et il vient faire ses études à Cambridge. Et là, il se rend compte que du côté de l'Occident, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui met en péril tout l'édifice de la civilisation islamique traditionnelle, dont il est pétri. Et à partir de là, il va essayer de penser c'est le titre de son ouvrage majeur, une reconstruction de la pensée religieuse de l'islam. Ça a été traduit en 1955 en français par une très grande orientaliste qui s'appelait Eva Dvitré Meyerowitch. Bon, elle est décédée et depuis, on n'a pas assez repris le flambeau. Mais voilà, c'est-à-dire que vous avez quelques comètes dans la civilisation islamique, parce que Mohamed Iqbal, c'est une comète de ce point de vue-là, c'est-à-dire quelque chose qui est sans sillage, il ne crée pas une école, il n'influence pas la civilisation, mais derrière tout le mouvement de la civilisation islamique, c'est un mouvement dans lequel ces questions sont posées, mais dans lequel il manque encore, je dirais, quelque chose qui se soit clarifié. On a un grand orientaliste qui s'appelle Darius Shayegan qui dit le monde musulman, on l'a encore vu avec les printemps arabes, le monde musulman n'en finit pas d'osciller entre le plus jamais et le pas encore. Hein, c'est-à-dire il est entre tradition et modernité depuis deux siècles entre les deux. Il faut dire que l'Occident ne l'a pas aidé en commençant par lui rentrer dedans consciencieusement. Bon. Mais il n'empêche que... voilà. Et c'est pour ça. Pour revenir à votre question, c'est pour ça que je dis que, attention, ne sous-estimons pas, et c'est pas une injure faite à l'islam, c'est une façon de dire que l'islam nous lance un beau défi aujourd'hui, parce que ça marche dans les deux sens, nous lui demandons, nous, où en es-tu, mais il nous demande aussi où en es-tu par rapport à tes certitudes, qui sont les certitudes d'une civilisation très anciennement maintenant sécularisée, hein, et notre modèle de sécularisation est en crise, de la même façon que le modèle d'affiliation religieuse de l'islam est en crise. Et c'est pour ça que les deux civilisations ont tant de mal à dialoguer, c'est parce que l'une et l'autre se renvoient à leur crise en réalité. Ce sont des crises symétriquement inverses. Ça aussi, c'est des choses que j'analyse. Bon, troisième question, mais là par contre je vais laisser la parole, c'est la SVT, la question du créationnisme, de l'intelligent design, etc. Bon, moi je fais une fiche, effectivement, pédagogie laïcité relative au cours de SVT, mais là nous avons des spécialistes, donc je vais les laisser parler.